sur Radio B, Alain Goudard. Bonjour et bienvenue à tous dans Résonance. Résonance, l'émission radiophonique de Résonance Contemporaine, pôle ressources départementales et régionales, culture et handicap, musique contemporaine. Résonance, une nouvelle émission, pour vous et avec vous. Pour tendre l'oreille vers ce qui ne s'entend pas, regarder où il ne faut pas ou ce qui ne se voit pas. S'aventurer en dialogue avec soi-même interroge le monopole de la vérité. Elle ne nous appartient pas, notre chemin n'est pas le seul. Nos réponses ne sont pas brevetées, nos certitudes habitent le provisoire et se transforment en s'ouvrant à d'autres vérités. Profondeur. Le mot creuse une brèche dans un monde de vitrines, d'apparences, de netteté. Au-delà des évidences, la mise en situation d'expression offre un dépouillement, un rajeunissement, une redécouverte ou une relecture de notre actualité, un voyage. Partons à la rencontre de l'inespéré. C'est avec ces mots qu'Alain Vasseur, directeur artistique d'Itinéraire Singulier, présente la thématique que recouvre le terme « profondeur », thématique qui sous-tend la 10e édition du festival Itinéraire Singulier qui a débuté le 1er mars dernier et que je vous invite, chers auditeurs, vivement à aller découvrir jusqu'au 23 avril prochain en région Bourgogne-Franche-Comté. Itinéraire Singulier, une biennale qui rayonne cette année sur les départements de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et du Doubs et qui tente de décloisonner, de promouvoir la culture, la création comme l'un des modes privilégiés de lutte contre l'isolement. Une heure d'émission en compagnie de l'équipe d'Itinéraire Singulier pour évoquer le contenu, les rendez-vous, les coups de cœur de cette nouvelle édition.
Thank you.
Résonance sur Radio B, créer nécessite l'oubli, l'abandon de soi, puisque celui qui crée travaille dans le champ d'un autre, d'un ailleurs, d'un autre temps. Nous venons d'entendre Die Stellung der Zahlen, un extrait de l'une des pièces constituant la Wölfli-Kantata composée en 2005 par le compositeur Georges Apergis et interprétée par le Neue Vokalisten Stuttgart et le SWR Vocal Ensemble de Stuttgart, également placé sous la direction musicale de Markus Kraed. Cet extrait, parce que aussi cette Wölfli Cantata, c'est une immense œuvre pour chœur et soliste a cappella d'un compositeur dont le parcours est très étroitement associé à l'écriture vocale depuis plus de 30 ans, et donc né de la rencontre du compositeur Georges Apergis avec les tableaux et les textes d'Adolphe Wölfli, bernois, résident permanent d'asile et icône de l'art brut du XXe siècle. Plusieurs traits de l'œuvre de Wölfli semble attirer l'attention du compositeur, d'abord au niveau du langage. Apergis constate que ces strates de distanciation donnent de l'épaisseur au texte de Wölfli. L'artiste écrit dans un allemand doublement transformé par son dialecte bernois et par son langage très personnel. Du point de vue du compositeur, il y avait déjà le fait de travail pour moi. Et les bouts de phrases, tout à fait compréhensibles, sont mêlés à des chaînes de phonèmes sans signification apparente, mais porteuses d'un grand potentiel musical. Die Stellung der Zahlen, pièce monumentale pour chœur, comprend jusqu'à 36 parties indépendantes. L'emploi de blocs sonores, de strates possédant des vitesses contrastées, la répétition et l'opposition d'articulations courtes et de longues tenues sont très étroitement liées au texte des tableaux chiffres de Wölfli. La cantate d'Apergis ne représente pas les tableaux ou les écrits de Wölfli. Elle se laisse guider par tout ce qui se trouve dans et hors cette œuvre, et en effectuant cette opération d'une profonde écoute et entente, elle l'incarne et la déborde. On reste avec l'impression pour Apergis que l'œuvre de Wölfli se plie dans la musique. Dans le sens exprimé par Deleuze, les philosophes Deleuze et Guattari, ce sont donc deux choses différentes qui font rhizome. Il n'y a pas imitation ni ressemblance, mais explosion de deux séries hétérogènes dans la ligne de fuite composée d'un rhizome qui ne peut plus être attribué ni soumis à quoi que ce soit de signifiant. Ouvrir nos fenêtres, notre fenêtre, tendre l'oreille, à l'écoute du dedans, du dehors, pour aller à la rencontre de ses manières de dire, de raconter, de penser. Dans la continuité, donc, je vous propose justement de découvrir dans notre rubrique Point de vue les réflexions et les propos d'Asma Alloui, résidente de l'ESAT et du foyer d'hébergement de Treffort de l'ADPI de l'Ain.
L'envie. L'envie, c'est un sentiment, un moteur. Une joie qui nous aide à traverser le parcours de la vie. L'envie, qu'elle soit triste ou gaie, nous donne la force de nous battre. C'est un désir qui est enfoui en nous, qui nous permet de réaliser nos rêves. C'est ce qui nous donne la rage d'avancer et de lutter pour ce que l'on désire le plus. L'envie d'être autonome et d'avoir plus de liberté. L'envie de voler pour pouvoir tout voir ce qui se passe dans le monde. L'envie que la guerre s'arrête dans ce monde de brutes. Quand on n'a plus rien envie de faire, quand notre corps se relâche, c'est que l'envie n'est plus là. C'est vraiment difficile de lutter contre cela. Aussi, l'envie peut être négative. Quand on ne la contrôle plus, elle peut faire très mal. Vraiment blesser et piquer le cœur, quand on a vraiment envie de quelque chose et que l'on ne l'obtient pas, quand on est dans un quand on est dans l'attente d'une réponse importante pour notre vie et que l'on désire vraiment. C'est un supplice. L'envie peut aller contre notre volonté, nous entraîner à faire des choses malhonnêtes. Faire du mal aux êtres humains, elle peut être plus forte que nous. L'envie est un sentiment qui est assez complexe, mais que notre corps peut contrôler ou pas du tout, mais qui vit toujours en nous.
Résonance sur Radio B. Créer nécessite l'oubli, l'abandon de soi, puisque celui qui crée travaille dans le champ d'un autre, d'un ailleurs, d'un autre temps. Résonance sur Radio B. Créer nécessite l'oubli, l'abandon de soi, puisque celui qui crée travaille dans le champ d'un autre, d'un ailleurs, d'un autre temps. J'ai le plaisir donc, comme je vous l'annonçais en début d'émission, d'accueillir à ce micro, par téléphone, une partie de l'équipe d'Itinéraire Singulier à Dijon et quelques invités qui participent à cette nouvelle édition que propose Itinéraire Singulier avec sa biennale, son festival qui maintenant est devenu un rendez-vous incontournable. Alors je crois que donc parmi nos invités, nous avons, si je ne me trompe pas, Patricia Aguera qui est directrice d'Itinéraire Singulier. Bonjour Patricia.
Bonjour Alain.
Bienvenue. Alors, d'autres invités à vos côtés. Camille Boucherie, également de l'association Itinéraire Singulier, et plus particulièrement chargée de la communication et de la médiation au sein de l'association. Bonjour Camille.
Bonjour Alain.
Et puis, deux autres invités également, au féminin. Laurence Mercuzo, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes art-thérapeute au CATTP Bachelard du Centre Hospitalier La Chartreuse à Dijon.
Oui, tout à fait.
Voilà, et à vos côtés, une autre personne également qui est donc, on verra dans quelques instants, participe à ce festival et ont participé à des créations collectives. Émilie Blanc, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes animatrice dans deux IME, Institut Médico-Éducatif, l'un qui est Sainte-Anne et l'autre Pyramide de la Collège, également à Dijon, je crois.
Voilà, exactement.
Très bien. En tout cas, bienvenue à tous et à toutes dans cette émission. Et peut-être avec vous, Patricia Aguera, on pourrait évoquer, parce que certains de nos auditeurs ont déjà eu connaissance d'Itinéraire Singulier, puisqu'on a eu déjà de nombreuses émissions dans lesquelles on a pu faire écho du travail. Mais peut-être c'est intéressant quand même de replacer en quelques mots ce qu'est Itinéraire Singulier, ses objectifs, et puis aussi les missions de l'association qui du coup agit sur un ensemble de territoires qui est celui de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Alors, Itinéraire est né il y a 17 ans, et on est né il y a 17 ans à l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse. Mm-hmm. On est né par la volonté d'un homme qui s'appelle Alain Vasseur, qui est encore notre vice-président directeur artistique. Mm-hmm. Et Alain, donc, il travaillait à l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse, se disait que soigner les gens en les mettant sous camisole chimique, ce n'était pas tout à fait du soin, et qu'il y avait peut-être quelque chose à réinventer. Et est venue cette idée de créer des espaces d'expression donc, où on pouvait faire aussi bien des ateliers d'art plastique, de théâtre, tout type de pratique. Et où Alain a été plus loin, c'était l'ère de l'art-thérapie, ça naissait un peu partout en France, mais où Alain a été plus loin, c'était premièrement de dire que ce qui se créait là, il fallait aussi l'exposer à l'extérieur pour faire changer le regard des gens, mais c'était aussi un processus dans la création pour valoriser la personne qui était créateur. Et puis, donc, où il a été plus loin, c'est qu'à un moment, il a fait intervenir des artistes à l'hôpital psychiatrique pour voir ce qui se passait, en fait, quand un artiste venait, Et là, on s'est rendu compte que l'artiste qui venait avec toute son humanité faisait que c'était des rencontres, en fait, une puissance et une force qui impactaient très fortement sur l'individu et que cet individu soit à un instant précis, cassé, fragilisé. Il y avait un vrai enrichissement, voilà. Et ce travail qu'on a mené là, ces années-là, dans les murs, et qui s'exposait en extérieur dans un festival qui existait à l'époque, eh bien, ça a un petit peu contaminé les acteurs du territoire. Et donc, si ça s'est fait dans la Chartreuse, au fur et à mesure, d'autres acteurs, au début, donc, c'était Dijon, la Côte d'Or,
on s'est
dit, mais nous aussi, on aimerait pouvoir participer à des actions de création, d'où l'idée, chaque année, de choisir un thème et de faire créer les acteurs autour de ce thème. Et puis, petit à petit, ça fait un petit peu un effet buvard. Et on a eu donc la Côte d'Or et les autres départements de Bourgogne, d'autres acteurs. Et si au début on est de la psychiatrie, on a eu aussi des acteurs qui étaient de différents champs, du sanitaire, du médico-social, de la culture, qui se sont associés. Donc Itinéraire a commencé à travailler, à manier à ces rencontres, à impulser cette idée qu'autour d'un thème, on pouvait faire naître de multiples espaces de création où chacun pouvait rencontrer les autres et se faire du bien. Donc en fait, ce travail qui est notre colonne vertébrale, nous a permis donc d'être repérés un petit peu comme exemplaires pour le travail qu'on menait dans les lieux dans le monde. Et ce travail, en fait, a fait que des financeurs se sont tournés vers nous et nous ont fait des commandes en disant « Mais ce que vous faites sur des territoires, est-ce qu'on pourrait le faire autrement, ailleurs ?» Et on a commencé donc à diversifier nos manières de travailler. Ça nous permet aujourd'hui, donc on a toujours cette action annuelle qui demeure avec un thème et des créations.
Oui, ça c'est important.
Voilà. Et deuxième axe donc, qui est né, c'était celui du pôle ressources. Le fait d'avoir eu cette pratique en fait, de mise en place de résidences d'artistes, de maillage des acteurs du territoire, nous a permis aussi d'être repérés et d'être aussi d'avoir cette étiquette qui nous est donnée de pôle ressources art, culture, santé, handicap en Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça veut dire qu'on transmet, on fait de l'information, on fait de la formation, on fait de l'ingénierie, on va répondre à des commandes. Et puis il y a un nouvel axe qui est né très récemment, qui est l'hôpital qui a rénové un de ses bâtiments, l'hostellerie. Et dans ce lieu, en fait, il nous a été mis à disposition pour gérer. Et c'est un lieu qu'on a dédié, nous, à l'art singulier. Et c'est plus que ça, c'est que c'est un lieu d'exposition, mais notre volonté aussi que ce soit un lieu de fabrique où on réinterroge le
c'est
monde,
ça.
Où on fait des rencontres, des propositions de spectacles et de concerts. Et l'idée d'Itinéraire, c'est de dire aujourd'hui, si on a trois axes, on voit en fait que notre force, et on la maintiendra par rapport à des fois des volontés qu'on peut avoir de financeurs, c'est de dire qu'il y a une nécessité d'aller à la rencontre des terrains, rencontrer les acteurs, il y a une nécessité d'accompagner, d'être au plus proche des gens, et qu'il ne suffit pas de donner des méthodologies de projet aux acteurs pour qu'ils fassent du projet, faut-il encore le mettre en appétit. Donc on voit le travail que l'on fait autour de la thématique du festival ou de la Biennale d'art singulier, exactement à ce but-là en fait. C'est de donner envie d'aller vers, de donner ce goût à pour rentrer dans un projet qui peut être très simple et parfois de plus en plus copieux pour des établissements, voire à faire venir des artistes sur du long cours. Voilà. En gros, c'est l'itinéraire aujourd'hui.
On voit bien que c'est toute une pertinence justement de recherche de proximité, hein, de placer l'individu au cœur en tout cas de toutes les actions. Et que là, c'est un travail assez important, voire même un peu exceptionnel que mène Itinéraire Singulier, parce que c'est un travail de fond, c'est un travail de plusieurs années et qui aujourd'hui essaime. Et on a bien senti toute la force de départ d'Alain Vasseur, qui est, comme vous l'avez souligné, toujours très présent et acteur aussi à vos côtés, mais en même temps que cette force est démultipliée aujourd'hui, et quand on va bien sûr parler dans quelques instants du contenu, du menu aussi de cette nouvelle édition, et il est très copieux et on voit bien toute la synergie effectivement aujourd'hui qui s'est fait jour grâce à ce travail d'accompagnement. Et je trouve que c'est important d'être à ce sujet-là, c'est-à-dire on voit bien qu'Itinéraire n'est pas en train de, comment dirais-je, de prendre la place de, mais est à côté pour faire avec et justement permettre à tout un chacun de prendre la parole à sa juste place et de l'emmener même dans des dimensions autres sur le point de vue créatif, collectif et solidaire aussi également. Donc on voit bien que la qualité, le choix d'accompagnement qui est fait par Itinéraire Singulier est extrêmement important à ce niveau-là.
Oui, et nous quand on dit on est pôle ressources, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui dans le contexte est plutôt sombre où on vit, avec une structure et des professionnels qui subissent des coupes financières et tout ce qui va avec. On voit en fait que la ressource première, en tous les cas, nous, qu'on essaye d'amener au niveau de l'équipe, c'est vraiment cette idée d'énergie, d'espoir, d'humanité. Et comme tu l'as dit, depuis toujours, on a mis, nous, l'humain au cœur. C'est notre sens, c'est notre réponse. Et il est au cœur de tout ce qu'on fait, au cœur du maillage, au cœur des rencontres. Et dans un système qui a tendance à tout déshumaniser, et bien nous, on se bat encore et encore aujourd'hui pour dire il faut aller vers, faire avec, accompagner, parfois porter des acteurs plus que d'autres, mais on est bien dans cette rencontre, en fait, de cette humanité.
Et est-ce que vous sentez, Patricia, que justement, alors, on sent bien que beaucoup d'acteurs du médico-social ou de la santé, de fait, se trouvent de plus en plus impliqués, mais on sent aussi au travers des propositions artistiques, des croisements qui sont faits justement dans le cours de la programmation de cette année, que les acteurs culturels aussi s'embarquent de plus en plus, je dirais, à vos côtés.
Ils ont toujours été là. Alors, c'était surtout les grosses salles. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité d'acteurs qui s'embarquent à nos côtés. Et on voit qu'il y a une espèce d'engouement, je dirais, qui est de la société civile, et donc des acteurs culturels aussi,
c'est
mais
ça.
D'autres. Camille, donc ma collègue, on parlera très bien tout à l'heure. On va être aussi bien sur des salles qui sont comme le TDB, qui est une grosse salle, une scène nationale ici à Dijon. C'est avec une toute petite salle sur le quartier à Fontaine-Douche où on vit et où on travaille au micro, qu'avec à nos côtés SOS Refoulement, qui est une association qui milite et se bat pour l'accueil des migrants. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est en fait à l'image, on essaye de voir l'image de notre société, c'est dans toute sa diversité, qui fait toute sa force et sa richesse. Et on voit bien que chacun, grosse structure, petite, on a tous nos mots à dire et donc une place à prendre dans ce projet qui est dans une logique d'être ensemble.
Et là, on voit bien que c'est comment la culture, la création, justement, peut, et c'est dans les mots qui sont exposés aussi à l'intérieur du document présentant, justement, le festival, que c'est un des modes privilégiés de lutte contre l'isolement et donc aussi les croisements et la rencontre avec les autres.
Totalement.
Alors peut-être on peut essayer d'avancer aussi dans cette programmation. Alors peut-être encore quelques instants avec vous, Patricia. Vous évoquiez tout à l'heure qu'il y a des thématiques qui sont choisies et qui permettent justement de travailler de ce tissage, de le renouveler, d'amener des pistes nouvelles d'accueil, de création individuelle ou collective. Et cette année, c'est le thème de profondeur. Alors je crois que dans la liaison téléphonique que nous avons eue tout à l'heure, vous n'avez pas totalement entendu le début de l'émission, mais j'avais choisi effectivement de reprendre certains propos, notamment l'édito d'Alain Vasseur, justement, qui donnait un petit peu ce sur quoi il s'était fondé, ou en tout cas comment il interprétait le mot profondeur. Et est-ce qu'on peut revenir quelques instants avec vous aussi sur le choix justement de cette thématique? Pourquoi cette thématique de profondeur justement cette année?
Alors là, je dirais que c'est mon regard sur la thématique que je vais apporter, qui sera peut-être supplémentaire. Pour moi, il y avait deux choses. C'est que si on remonte dans le temps sur nos thématiques, on a eu le cri, on a eu la quête. On voit, pour moi, on était en train d'avancer. On a fait comme surgir les gens, prendre la parole, commencer à se questionner, se mettre en mouvement de sens. Et pour moi, profondeur, c'est un moment, quand on est à la surface des choses, c'est entrer pour aller entrer en soi. C'est entrer dans les problématiques, c'est aussi aller plus loin. Donc ça nous intéresse. D'autant plus qu'on est dans une société qui est pour moi est tout l'opposé des profondeurs.
Oui,
on est sur le superficiel, on est sur l'image, on est sur le rapide. Voilà. Pour nous, cette idée de profondeur, c'était de prendre le temps d'aller plus loin que l'image, d'aller derrière, et derrière chaque individu, comme derrière un projet, de prendre le temps de gratter, de prendre le temps de réfléchir et de donner du sens. C'est entre autres pour ça qu'hier soir, le film qui était un des moments forts d'ouverture du festival, c'est La fille aux vagabondes. C'était exactement pour ça. C'est un moment, arrêtons le temps qui nous bouffe et prenons le temps de réfléchir de ce que l'on fait, qui on est, quelle place on prend dans notre société, quelle place on a dans nos vies. C'est vraiment ça.
Alors du coup, on entend bien toute la force et l'intérêt et la puissance justement de ce qui peut entourer ce choix de cette thématique. Et pour un peu donner ce fil rouge un peu à nos auditeurs, toute l'équipe d'Itinéraire Singulier travaille dans le choix, la réflexion autour de cette thématique. Et ça veut dire qu'après est façonné, à partir de là, un appel à projet en direction des acteurs de terrain ou de santé ou médico-social ou culturel pour essayer d'aborder aussi de son côté, de leur point de vue, de leur manière, cette idée-là.
Oui, je dirais qu'autour de la thématique, on demande à Alain un texte parce qu'il a une écriture assez poétique.
Tout à fait.
Donc on dit qu'il laisse une ouverture à tout l'imaginaire qu'on peut mettre derrière. Et après, donc, on essaye de faire une proposition d'un appel à création qui soit pas trop enfermant, mais qui mettent quand même un minimum de cadre, parce qu'on sait qu'après, on va récupérer nos décrations, et que ces créations, on va, et c'est le travail entre autres de Camille, on va devoir en fait les harmoniser, les mettre ensemble. Donc on essaie quand même d'avoir un petit fil conducteur. Mais le but, c'est que chacun, avec ce qu'il est, avec son propre vécu et ses propres souhaits, peut rentrer dans la thématique par le bout qu'il veut et par le bout auquel il a pensé.
Et là, vous sentez que là, c'est une porte, voilà, c'est plusieurs portes d'entrée qui aujourd'hui sont, provoquent une dynamique assez incroyable, parce qu'on voit bien là le nombre de, d'actions, de projets, de villes, d'endroits, de territoires qui sont menés, qui sont là et qui vitalisent justement. Et on voit qu'il y a une adhérence très forte à ce type de proposition.
Oui, je crois que c'est évident. Dans une société où chacun crie qu'on est de plus en plus individualiste, on voit bien, paradoxalement, que quand on lance des projets où on dit aux gens « venez faire, faire un chemin ensemble », ça marche et c'est une nécessité en fait aujourd'hui. Donc c'est logique pour moi qu'un tel projet puisse mobilise en fait. C'est comme une nécessité.
C'est ça. Alors merci Patricia. Peut-être que nous pouvons justement alors entrer avec vous, Camille Boucherie, comme le disait Patricia, que vous vous harmonisez, vous mettez en lien et donc entre toutes ces différentes propositions qui existent, entrer un petit peu plus vif, vivement dans le dans le sujet. Alors. Il y a beaucoup de choses. Hein, pour cette, en rappelons quand même que c'est une 10e édition hein, et que ça c'est important. Je rappelais qu'il y avait plusieurs aussi territoires. Il y a la Côte d'Or, il y a la Saône-et-Loire. J'ai vu aussi qu'il y avait le Doubs, il y a la Nièvre, hein, comme comme ensemble de choses. Je dirais par quel bout vous auriez envie qu'on parce qu'on a parlé, il y a des films, il y a des expositions, il y a des moments de, d'ateliers participatifs, il y a un grand nombre de choses par lesquelles un peu on peut attraper les choses. J'irais, au vu de ce que Patricia Guerra nous a fait part, comment petit à petit vous fabriquez ce tissage de votre côté ?
Le tissage, je pense que pour l'illustrer, si on veut assez rapidement avoir une parole de participants et d'acteurs, à mon avis, le témoignage de Laurence et d'Émilie peut être justement une bonne transition pour montrer que ce projet se construit avec foule de créateurs. Je pense que là, il y a des centaines de créateurs mobilisés sur le thème profondeur et qu'en parallèle, en effet, il y a toute une programmation d'artistes et de compagnies professionnelles. Et c'est ce croisement, ces allers-retours qui font la richesse du projet. Et je pense que du coup, si tu veux bien, Alain,
bien sûr.
La parole, pourront-elles parler de ce qu'elles font concrètement sur cette thématique avec leur public ? Je ne sais pas qui veut commencer.
Tout à fait, peut-être Laurence Mercuso, par exemple.
D'accord, bonjour. Bonjour.
Voilà, et du coup, par rapport à ce qu'on a entendu de Patricia Guerra, ça pourrait être aussi intéressant, voilà, comment vous, vous avez reçu, comment vous avez eu connaissance, comment vous avez eu envie de vous impliquer petit à petit dans cette proposition qui était faite par Itinéraire Singulier.
Déjà, dans un premier temps, voilà, le moment du festival est attendu avec impatience, notamment au sein de la structure du CATTP Bachelor, que c'est un voilà, c'est toujours une mise en mouvement, une création, et puis on invite l'individu à être gourmand, et je pense que vraiment c'est ce que Itinéraire Singulier sait faire. Donc voilà, à la suite de ce thème, nous avons répondu voilà, de façon positive. Et donc nous sommes allés à la rencontre, et enfin il y a une rencontre qui s'est créée avec la bibliothèque de Fontaine-Douche.
Oui.
Voilà, et le club photo, donc un club photo privé, qui nous a fait part de son travail en photo et sur lequel nous avons écrit. Donc on est venu un peu rehausser ces photos avec voilà, un groupe d'écriture qui se rencontre de façon hebdomadaire sur ce lieu de soins. Donc l'idée, c'était quand même de rencontrer tous ces publics et de se faire croiser un petit peu tous ces regards autour de profondeur. Et donc ce travail sera restitué et visible sur l'exposition à l'église Saint-Philibert sur Dijon. Voilà, donc nous avons eu des temps de rencontre et d'écriture sur ce support photo.
Oui, là, c'est une belle rencontre là, entre deux types d'écriture, entre la photographie et puis bien sûr l'écriture de cet ordre. Et vous aviez déjà participé les années précédentes aussi avec un certain nombre de personnes du CATTP Bachelard. Déjà, j'imagine, bon, c'est un des endroits où travaille Alain Vasseur, mais vous aviez déjà emmené dans ces dynamiques-là certains des résidents, des patients aussi du CATTP.
Oui, c'est depuis déjà de nombreuses années, on participe donc au festival. Ça permet aussi de, voilà, c'est un espace des possibles, ça permet de recréer, ça permet de redonner une dynamique dans des ateliers, et c'est se mettre en situation de création, c'est créer du désir aussi, des fois moments de doute, mais c'est nécessaire à la vie, et c'est nécessaire aussi pour ces groupes de personnes qui sont en fragilité psychique et qui permettent aussi de retrouver une dignité, une confiance en eux et d'aller aussi et de s'ouvrir sur l'extérieur, de s'ouvrir à l'autre. Donc ce qui est intéressant et grâce à Itinéraire Singulier, on peut se permettre de croiser un peu tous ces publics dans des rencontres qui sont très enrichissantes.
Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que là, on sent tout à fait, quand tu expliquais cela, Patricia Aguera, à la fois l'importance, le rôle de médiateur, de maillage, mais aussi, vous évoquiez gourmandise aussi dans votre propos, d'éveiller ces gourmandises, ces envies, et de les susciter, de les accompagner, et de leur laisser les modes de liberté aussi d'expression et d'explosion, si je peux dire, aussi de ces gourmandises. Et ça, c'est toute l'importance aussi du cadre que propose Itinéraire Singulier, en tout cas.
Oui, tout à fait. C'est, en fait, cultiver tous les possibles.
C'est ça.
Et je pense que c'est important aujourd'hui, d'avoir cet espace de liberté. Et puis, c'est aussi pouvoir accéder à des choses différentes.
Oui, c'est ça. C'est aussi une manière de renouer. Vous avez employé le terme de remise en mouvement aussi, également. Donc, en revisitant ces choses-là, en s'aventurant aussi quelque part dans d'autres directions, tout ça, ça revivifie les choses et redonne des envies encore et des nouveaux possibles, justement.
Oui, et puis on sort un petit peu du champ thérapeutique, puisque l'espace des expressions reste quand même un champ thérapeutique. Et donc, en menant des projets de cette sorte, on sort un petit peu de ce champ thérapeutique et on va aussi au-delà de la psychiatrie et de toute cette étiquette que peut porter la psychiatrie et toute cette stigmatisation qu'on peut encore avoir.
Et vous avez raison. Vous avez raison de soulever ça. Effectivement, je pense que c'est important que vous soulevez le fait que ça dépasse effectivement l'acte thérapeutique et que là, on se situe dans autre chose, justement, dans la propre expression de ces personnes. Et ces actions-là ne sont pas faites dans le but de soigner la personne, mais de favoriser leur expression et justement un peu de le croiser avec plein d'autres, en tout cas.
Oui, tout à fait. Oui. Et c'est important aussi, le fait de se rencontrer, de croiser et d'échanger.
C'est ça.
C'est aussi s'ouvrir à l'autre et en fait, c'est bien aussi une des missions d'Itinéraire Singulier.
Et puis, quelque part, ça réinscrit le ACTTP Bachelard, le centre hospitalier La Chartreuse, comme un espace de création dans la cité. C'est-à-dire que c'est un endroit où aussi des gens y vivent, y habitent, y travaillent. Mais du coup, c'est un lieu qui peut venir, on peut y créer, et en même temps qui peut venir, alimenter le commun qui est la cité dans laquelle elle se trouve et que c'est un espace de création parmi d'autres.
Alors c'est en fait un espace qui commence effectivement à s'ouvrir. Et ce qui est important, c'est que chacun va se réapproprier quelque chose dans cet espace psychiatrique quand même qui a une certaine lourdeur.
Certainement.
Même un espace de soins asilaire, ça a été.
Bien sûr.
Ça reste quand même dans les mémoires. Et donc, aujourd'hui, ce sont des portes qui s'ouvrent avec un espace aussi d'exposition qui est mis à disposition de tout public. Et ça, c'est intéressant aussi. Voilà.
Tout à
donc,
fait.
C'est comment inscrire, retrouver place dans notre société avec nos différences.
Merci beaucoup, Laurence Mercuzot. Je rappelle que vous êtes art-thérapeute au CATTP Bachelar du Centre Hospitalier La Chartreuse à Dijon. Alors peut-être, Émilie Blanc, pouvons-nous poursuivre avec vous justement, alors, vous êtes dans un autre type d'établissement, un établissement médico-éducatif, celui de Sainte-Anne et aussi celui de Pyramide de la Codège. Comment vous aussi, vous avez approché cette initiative? Comment vous vous êtes... qu'est-ce qui a conduit à ce que vous vous inscriviez vous aussi dans cette dynamique proposée par Itinéraire Singulier?
Alors nous, c'est la troisième année qu'on est participé. On avait participé au CRI et puis à la quête. Mais cette année, ce qu'il y a eu de nouveau pour nous, c'est qu'on a pu s'associer avec une autre structure qui est l'EHPAD de Bellefontaine.
Oui, essayez peut-être de vous rapprocher un tout petit peu plus parce que je vous perds un peu. Voilà, et nos auditeurs risquent de vous perdre un petit peu. Si vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu de la source, ça sera parfait. Voilà, allez-y, je vous en prie.
Voilà, donc du coup, alors c'est vrai que très honnêtement, le thème de cette année ne nous a pas beaucoup inspiré.
Oui.
Mais justement, avec la rencontre avec un autre établissement, ça nous a permis de pouvoir nous associer, nous rencontrer. Et puis voilà, du coup, c'était presque, j'ai envie de dire, un prétexte, en fait. Le thème, ce qui importait pour nous, c'était de pouvoir proposer quelque chose, créer quelque chose, et puis surtout avoir ces temps de rencontre avec des gens qui n'avaient pas forcément une aisance à se rencontrer dans la vie de tous les jours, quoi. Des personnes qui sont dans un EHPAD et puis des enfants qui sont dans un IME, c'est vraiment deux cultures aussi qui se rencontrent, parce que ces mêmes enfants à l'époque où les résidents de l'EHPAD étaient eux-mêmes enfants, ils étaient cachés, quoi. Donc du coup là, c'est quand même aussi culturellement assez assez intéressant de pouvoir confronter que ces personnes se rencontrent, quoi, autour d'un acte de création.
Et là, ils ont quel âge, alors, les jeunes de l'Institut médico-éducatif qui ont été acteurs dans ce projet?
Alors, ceux qui participent, ils ont de 12 ans à 19 ans. Pour les temps de rencontre, en fait, il y a 5 jeunes qui vont, on va une semaine sur deux passer la matinée du vendredi à l'EHPAD.
Oui.
Et puis, on y reste pour partager le repas. On s'est dit que ce moment aussi... de convivialité qu'était le repas, ça pouvait être aussi favorisant par rapport aux liens qui pouvaient se créer. Et donc, du coup, on passe la matinée à travailler sur notre œuvre, qui est la construction d'une baleine géante dans laquelle on peut rentrer.
Ah.
En fait, ça nous a permis l'idée de la baleine, ça a été vraiment choisi et par les enfants et par les résidents.
Oui.
Et puis ça nous permettait aussi de pouvoir faire des choses à la fois chacun de notre côté, puisque du coup on a décidé que cette baleine allait avoir des écailles. Et du coup, les écailles, on pouvait les faire chacun de notre côté et les assembler sur ces moments où on se retrouvait et les faire ensemble. Donc voilà, techniquement, c'était aussi facilitateur. Et donc ces cinq enfants... rencontre. Alors, le nombre de résidents, il est variable. On est entre 5 et puis parfois beaucoup plus dans un espace qui est ouvert dans l'EHPAD. Donc, vient qui veut, en fait. Donc, il y a pas mal de gens qui viennent aussi pour voir ce qui se passe, pour aller à la rencontre d'enfants, parce que c'est pas banal de voir des enfants dans un EHPAD.
Bien sûr.
Et voilà, quoi.
Et là, vous sentez justement que ce mélange intergénérationnel, mais là, à l'au-delà du terme, puisqu'on entend souvent aussi cette sémantique-là, mais en tout cas, ça fait vraiment bouger des lignes, ça fait vraiment bouger des postures et qu'il se passe quelque chose d'important, justement, dans le franchissement de ces frontières, justement, entre ces générations.
De la part des jeunes, par exemple, la première fois qu'on y allait, quand on est retourné à l'IME, il y a une des jeunes qui retournait sur son groupe, elle a dit waouh, c'était génial, je me suis fait plein de côtés. Ouais. Elle n'avait pas du tout pour elle, c'était pas, elle n'en avait rien à faire, c'était des résidents d'un EHPAD. Elle s'est fait des copines, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et inversement, les résidents de l'EHPAD, eux, du coup, sont très. Ils nous questionnent beaucoup, quoi, sur comment ces jeunes la vivent. Qu'est-ce qu'ils ont de différent, puis finalement, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas grand-chose de différent, quoi. Ils sont dans un IME, puis c'est dans une école, mais autrement, c'est des jeunes, quoi. Et puis, ils sont contents de voir des enfants, de voir de la vie, du mouvement. Et effectivement, les représentations que chacun pouvait avoir, elles sont tombées au bout d'une fois.
Et est-ce que vous sentez justement, donc lorsque vous êtes dans l'EHPAD justement, et qu'il y a cette rencontre qui s'anime, et puis cette création collective qui se déploie entre ces individus, effectivement, est-ce que là aussi ça met en mouvement, je dirais, ou ça fait changer aussi quelque part le regard des professionnels de l'EHPAD vis-à-vis aussi bien des personnes qu'ils accompagnent au quotidien, et le fait de voir cette dynamique justement avec ces jeunes de l'IME, est-ce que là vous sentez que ça contribue à mettre en mouvement là aussi des représentations?
Je pense un peu, après j'ai pas franchement eu l'occasion d'en échanger avec les gens, mais en tout cas c'est vrai que notamment pendant les temps de repas, plus que pendant le temps de création, parce que du coup les professionnels sont affairés à droite à gauche, il y a juste l'animatrice de l'EHPAD qui est avec nous, mais après les autres je les vois pas vraiment en passer. Mais en tout cas pendant les temps de repas où là il y a plus de mouvement, effectivement j'ai le sentiment que c'est presque qu'on redécouvre un peu les résidents, quoi. Les professionnels redécouvrent un petit peu les résidents sous un autre angle, quoi.
C'est là où on voit, et j'imagine, vous en tant qu'animatrice, justement au sein de ces IME, on voit que les pratiques artistiques, ou quelles qu'elles soient, de quelle que soit la nature des propositions, elles ont aussi peut-être aussi cette faculté de nous permettre de poser un autre regard, parce que c'est d'autres facettes de l'individu, d'autres manières de le regarder, et puis parce qu'il nous fait découvrir, parce qu'il se trouve dans un contexte particulier qui fait qu'on découvre une facette de lui-même, de ces modes d'expression qu'on n'avait encore pas perçus jusqu'à présent.
Complètement, je pense à un jeune par exemple qui participe à cet échange-là qui est mutique, et du coup quand il est arrivé ça a quand même été un peu un moment un peu gênant pour certains résidents. Voilà, il parle pas, qu'est-ce qu'on peut te raconter s'il parle pas. Et puis assez rapidement il s'est mis à dessiner, à faire des choses, et puis là d'un coup ce qui pouvait être un problème de prime abord, c'est devenu quelque chose d'évident, et du coup, il y a une résidente qui s'est mise à communiquer avec lui en faisant des dessins, en regardant un petit peu, et du coup, c'était, grâce à la production, c'est sûr, oui. Mais grâce à ça, voilà, il y avait plus de problèmes, quoi. C'était évident, grâce à la production.
Alors, je vous propose juste quelques instants, une toute petite pause musicale en introduction, et peut-être que là, ça peut venir en écho justement à ce que l'on vient de dire ensemble, et ce que vous venez de nous dépeindre dans la qualité de la relation. C'est un nouveau petit extrait de la Wölfli Cantata de Georges Apergis, qui est là la rencontre du compositeur avec cette personnalité de l'art brut qui est Adolphe Wölfli et ses œuvres. Et donc, voici un petit extrait de Von des Wiege bis zum Grab.
Thank you.
Résonance sur Radio B. Nous sommes toujours en liaison téléphonique depuis Dijon avec l'équipe du Festival Itinéraire Singulier, festival biennal que je vous invite chaudement à aller visiter, à ne pas vous priver d'aller découvrir et éveiller votre curiosité, et qui se déroule du 1er mars au 23 avril prochain sur une grande partie de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors peut-être on peut à ce moment-là, Camille Boucherie, si vous voulez bien reparcourir. Nous allons bien sûr pas pouvoir dépeindre tous les rendez-vous puisqu'ils sont très 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 nombreux. Mais puisqu'on était un petit peu sur les arts plastiques, par exemple, je pensais notamment au travail de Didier Turbet, qui lui est plutôt sur un travail de sculpture, mais réalisé par exemple à partir d'éléments de récupération et qui lui aura donc un temps d'exposition entre le 5 et le 23 avril le prochain à la Chapelle des Élus à Dijon. Alors, comment s'est faite cette rencontre justement avec Didier Turbet?
Alors, cette rencontre avec Didier, elle s'est faite par l'intermédiaire en fait de son agent. Didier, je crois que c'est un artiste qui se met assez peu en lumière et qui a besoin d'être accompagné. Donc, il a un agent en fait qui travaille avec lui depuis peu de temps. Et nous, la rencontre s'est faite assez naturellement lorsque Patricia Guerra, donc la directrice de l'association, a été à Nevers pour construire le projet avec les acteurs de la Nièvre, qui avaient répondu à l'appel à création. Elle a fait la connaissance de cet agent qui lui a parlé du travail de Didier Turbet. Et cet art du détournement, de la récupération, nous vous parle tout particulièrement puisqu'il est dans la dynamique des créateurs singuliers et bruts. Et autour de Profondeur, il avait des œuvres qui inspiraient des constructions un peu atypiques, un univers en tout cas qui nous a bien parlé autour de machinerie, etc. On avait envie de mettre en lumière et on l'expose dans une chapelle, donc un lieu en plus un petit peu décalé par rapport aux productions. Oui. Donc je pense que le résultat va être plutôt chouette.
Je pense. Je pense aussi par exemple à un autre travail qui a l'air très intéressant d'une galerie, la galerie Bizarre Bizarre aussi, qui là aussi fait tout un accompagnement de diffusion particulier, notamment en milieu rural.
Oui, alors on connaissait déjà la galerie depuis quelques années puisqu'elle a un lieu. En fait, l'artiste qui gère cette galerie s'appelle Françoise Sablon. Françoise est artiste et elle accueille tous les étés dans sa maison, qui est son atelier qui devient galerie le temps de l'été, dans le Jura. Au Vaudioux, dans un village du Jura. Elle accueille foule d'artistes contemporains, singuliers, pour des expos qui sont toujours de très très belle qualité. Elle a une manière de détecter des artistes, de repérer des jeunes créateurs qui est vraiment super. Et là, on lui a proposé, ça faisait un petit moment qu'on se connaissait, on n'avait encore jamais eu l'occasion de travailler ensemble, de faire une sélection sur la thématique de Profondeur. Voilà. Donc avec des artistes, un jeune artiste par exemple qui s'appelle Vincent Franchard, qui est lui de Besançon, qui est encore assez peu exposé, qui travaille sur des créatures. Il y a des petites punaises, par exemple, et différents matériaux. Et sur un volume, il va mettre des petites punaises. Et ça fait des espèces de créatures habitales noires. On va aussi avoir des œuvres d'artistes plus reconnus. On sera aussi bien sur du volume que sur des aplats. Et pareil, le lieu d'accueil sera dans un hôtel particulier à Dijon qui s'appelle l'Hôtel de Beaubouet, qui est un très, très joli lieu. Donc, pareil, une expo, à mon avis, singulière sur des thématiques avec des entrées à chaque fois très différentes au niveau des artistes.
Et puis, donc là, on vient d'évoquer deux individus. Il y a aussi un certain nombre d'expositions qui, pour leur part, alors, bien sûr, dans les témoignages que nous avons eus tout à l'heure, on avait aussi déjà cette idée du collectif. Et là, des expositions aussi collectives. Alors, je change de territoire, mais du côté du Grand Chalon, de Saint-Marcel, de Sevray, là, il y a tout un travail aussi d'exposition collective que l'on va retrouver prochainement entre le 24 mars et le 15 avril prochain, par exemple.
Oui, c'est vrai que sur chacun des territoires, quand on lance l'appel à création, nous avons à cœur d'aller co-construire une action de territoire avec les acteurs qui ont répondu à l'appel. Donc c'est vrai que les arts plastiques sont un support qui en général marche assez bien. Donc il y a beaucoup de groupes qui travaillent les arts plastiques, certains vont travailler sur des formes vivantes, mais les arts plastiques restent un support facile d'accès quand on a parfois peu l'habitude. Donc sur chacun des territoires, c'est vrai qu'il y avait cette idée de rassembler les créations sur une exposition collective, pour voir les différents regards autour de la thématique, et aussi bien par des enfants que des personnes âgées, comme nous l'a dit Valérie Émilie très justement. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'avoir des expos comme ça qui vont croiser des pratiques,
des regards sur la thématique et en parallèle d'avoir des artistes plus professionnels aussi pour parler de cette thématique-là en effet.
Alors, autre aspect aussi du festival, on essaye de balayer un peu ensemble, Camille Boucherie, un peu les différentes facettes, bien sûr, tout en n'étant pas exhaustif, bien évidemment, mais dans cette 10e édition également, le film, en tout cas l'audiovisuel, tient une place aussi importante et pas plus tard qu'hier, hein, Patricia l'évoquait aussi tout à l'heure, il y avait déjà aussi un film le 6 mars dernier, La philo vagabonde de Johan Lafort, par exemple, autour d'Alain Guyard, philosophe forain, et là c'était une collaboration avec le cinéma Eldorado. Je pense aussi à Julie Bertuccelli là, qui va avoir lieu aussi les 23 et 4 mars prochains avec Les dernières nouvelles du cosmos. Voilà, il y a un choix aussi de films et de programmation autour de cette idée à partir de la thématique et bien sûr de ce qui est développé dans ces documentaires ou films en même temps.
Oui, complètement, parce que le cinéma reste un support, je pense, assez facile d'accès aussi pour un public un petit peu large. Donc il y a l'idée aussi d'avoir des soirées films, en général associées avec des débats, des rencontres. Mm-hmm. On a également une à Se mûrir en soi sur un film qui va parler de la souffrance au travail. Mm-hmm. C'est aussi un thème qui nous parlait, nous, par rapport à profondeur. Il y a l'idée d'avoir, à l'issue de cette projection, la rencontre avec un psychiatre pour parler de justement de cette souffrance. Aujourd'hui, le burn-out, c'est quelque chose qui devient assez régulier quand on écoute les informations. On voit que les gens se sentent mal aussi dans leur travail. Donc voilà, c'est comment décliner profondeur sur des entrées très très larges par le film, en effet, parce que c'est un support, en général, dans des petites villes, à ce moment-là, soit ou autre, c'est toujours là que la culture aussi a lieu. Le cinéma a une place très forte. C'est souvent des cinémas associatifs, en plus, qui sont là. Donc on voit que c'est des vrais lieux de vie, les cinémas, quand les villes n'ont pas forcément de théâtre et de salles culturelles adaptées, le cinéma est un support très très facile.
Alors je continue comme ça à visiter la programmation que propose cette biennale d'itinéraire singulier. Et il y a aussi, à certains moments donnés, donc différents ateliers qui sont mis en œuvre pour permettre justement la rencontre, le croisement aussi de différents publics. Alors il y a des ateliers cuisine par exemple.
Il y a comment préparer les vernissages collectifs de l'expo collective en travaillant aussi la cuisine pour offrir quelque chose à manger qui soit collectif. On pense beaucoup très très collectif, très collectif, même dans les préparations. Ouais,
voilà, il y a aussi, alors je trouve ça aussi intéressant, atelier récit de vie également.
Oui, ça c'est en écho avec une artiste qui se cherche, qui s'appelle Catherine Flett, qui n'a encore jamais exposé. Nous, à Itinéraire Singulier, à chaque édition, on a aussi à cœur de pouvoir mettre en lumière un artiste qui tâtonne, qui ne sait pas encore vraiment quoi faire, mais qui commence à avoir un style qui lui est propre. Ouais. Et Catherine Flett, elle travaille des portraits de personnalités très différentes. Donc, on a voulu penser autour de son expo un atelier sur le risque de vie. Voilà, je pense que ça va être un joli moment parce que ces portraits sont tellement multiples dans les entrées. On travaille à partir de photos, beaucoup, donc on va avoir des portraits de nomades, des portraits de personnes qui sont à la rue. On est vraiment sur une multitude de portraits et donc il y a toutes ces histoires de vie qu'on va pouvoir imaginer en atelier. Mmh. Et cette année, on a aussi la chance de pouvoir avoir une semaine de stage théâtre avec les Tréteaux Trans.
Oui, tout à fait.
On va être un intervenant des Tréteaux Trans qui va venir travailler sur du théâtre, mais sur un groupe mixte de personnes accompagnées et de tout public. Donc voilà, on est aussi sur un joli projet d'un atelier qui va durer une semaine. Il y a toujours cette idée que ça soit ouvert à tous,
c'est ça.
Qu'il n'y ait pas de frein pour pouvoir y participer.
Oui, notamment, je prends aussi cette idée aussi de projet participatif également, où il y a la proposition de réaliser une fresque collective aussi également.
Oui, cette année, en fait, donc, au niveau de la programmation, si je reviens sur le cœur de programmation à Dijon, on a des choses en centre-ville, on a des actions qui vont se faire au sein de l'hôpital psychiatrique La Chartreuse, qui est notre poumon historique. Et il y a l'idée, notre association est basée sur le quartier de Fontaine-Douche, l'hôpital est basé sur le même quartier, de pouvoir aussi davantage faire vivre des choses sur ce quartier, qui est un quartier dit prioritaire. Donc on a travaillé avec la bibliothèque, avec la maison de quartier, et il y avait l'idée de pouvoir imaginer cette fresque participative sur la grande place du quartier, avec un artiste dijonnais qui travaille sur des fonds de méduses et de profondeur, comme ça, un petit peu habitable. Donc il y aura l'idée sur toute une journée d'inviter les gens qui vont passer dans la rue, d'aller chercher des groupes du quartier, aussi bien au centre social ou autre, à venir mettre leur touche sur cette fresque éphémère qui durerait quelques jours, même ça, sur la place centrale du quartier.
Et puis bien sûr, la Biennale itinéraire singulier, c'est un certain nombre de spectacles aussi également. Alors je pense à Frère Animal, hein, par exemple, de Arnaud Catherine et Florent Marchais, hein, qui va avoir lieu au Théâtre des Feuillants, là aussi à Dijon, le 30 mars à 20h. Il y a aussi toute une programmation aussi qui vient de différents spectacles, qui vient non pas parachuter, mais qui au contraire vient nourrir aussi à la fois ces initiatives et ces créations collective qui vient alimenter, mettre en écho, mettre en rebond un petit peu toute cette dynamique de créativité qui est en œuvre au cours de la Biennale.
Tout à fait. Il y a l'idée aussi de voir comment les artistes professionnels vont, eux, entrer sur des thématiques qui vont être les nôtres. Et le spectacle Frère Animal autour de Profondeur nous a parlé dans le sens où ça va parler de la montée de l'extrême droite et comment, à un moment donné, des jeunes vont partir à la dérive d'une France inquiétante qui est en train de se développer. Là, en plus, à la veille des élections présidentielles, on est dans une actualité un peu brûlante. Nous, Arnaud Catherine, c'est un artiste en plus qu'on a particulièrement à cœur comme un compagnon de route de l'association, puisqu'il était venu en résidence artistique à la Chartreuse il y a quelques années. Il avait travaillé sur la création d'un spectacle musical. Et voilà, quelqu'un qui a une écriture qui est magnifique. Florent Marchais qui l'accompagne en musique, un univers musical aussi qui est très pop, qui est très jeune. On est sur une forme du coup là qui tourne un peu partout en France, qu'on a eu la chance de pouvoir accueillir à Dijon, en s'associant avec un acteur culturel, parce qu'on n'aurait pas eu les moyens de l'accueillir seul. Et aussi cette idée du coup de pouvoir nous, association culturelle mais pas que, de pouvoir s'associer avec des acteurs culturels du territoire qui ont des salles, qui ont aussi des moyens pour pouvoir mutualiser et se donner les moyens d'accueillir des jolies formes.
Tout à fait. Alors, je prendrais aussi comme à l'extrémité, pratiquement vers la clôture du festival, ce moment de musique qui lui va être proposé avec le bal des Korrigans, proposé par l'équipe musicale de l'ESAT artistique Arc-en-Ciel à Troyes. Ça sera le 23 avril à 15h au centre hospitalier également La Chartreuse à Dijon. Et là, un moment festif aussi, un moment. On parlait de cuisine tout à l'heure, mais aussi des moments où là, on a l'idée du bal et de pouvoir aussi se retrouver et danser ensemble.
Voilà, on va installer, si le temps me permet, un grand plancher sur le parc de l'hôpital pour inviter le grand public. On voit que sur les week-ends, on a un public familial, un public de patients et de soignants de l'hôpital. Et voilà, c'est comment tous ensemble, on va être invités à chantonner, à danser autour de musique bretonne et de clôturer ça avec un goûter. C'est vraiment, on a voulu penser le week-end de clôture comme quelque chose de très festif.
C'est ça.
Vraiment de moments de être ensemble. Et les ZAD 2-3, on a déjà eu l'occasion de les accueillir quelques fois. Et c'est vrai que voilà, c'est une troupe. Il y a toute une histoire de troupe qui nous parle bien.
Très bien. Il me reste, nous arrivons maintenant à peu près au terme de cette émission. Vraiment à vous remercier beaucoup, aussi bien vous, Camille Boucherie, Patricia Aguera, et puis bien sûr nos deux autres invités, Laurence Mercuzo et puis donc Émilie Blanc, pour la participation à cette émission. Et je pense que vous avez donné et créé beaucoup d'envie à nos auditeurs d'aller goûter justement un peu avec gourmandise, le terme était employé tout à l'heure, toutes ces propositions les plus diverses qui vont nous permettre bien sûr d'aller à la rencontre de toutes ces réalisations, de découvrir aussi un peu plus aussi cette région, Bourgogne-Franche-Comté également, et puis de saluer cette initiative de travail en profondeur, de pertinence, d'abnégation aussi, puisque c'est tout un travail dans la durée, et on sait ô combien que tout ce que cela nécessite justement d'investissement, d'engagement de la part de toute l'équipe d'itinéraire singulier pour faire aboutir toutes ces choses et ô combien importante aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à vous tous là-bas à Dijon.
Merci pour cette invitation. Et le programme du festival est en ligne sur le site de l'association.
Allez-y, Camille.
Si le public veut en savoir un petit peu plus, on a un site internet www.itinéraire-singulier.com. On a une page Facebook également pour suivre l'actualité de l'association. Et donc, voilà, on sera ravis de vous accueillir jusqu'au 23 avril. À Dijon et sur différents territoires, en effet, de Bourgogne-Franche-Comté.
Merci beaucoup, Camille. Et puis, de toute façon, à très bientôt pour suivre l'actualité d'itinéraire singulier. Alors, À très bientôt. Donc, vous avez compris, chers auditeurs, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, à ne pas rater. Cette émission a été réalisée et mise en onde avec la complicité de Simon Deborne. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr écouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le voulez, la présente émission, en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous et restez surtout à l'écoute de Radio B.